Alors moi, il y a un sujet, je continue, hein, les feuillages.
Le poil à gratter.
Les feuillages, qui est le sujet de la... Donc, sur le chemin, toujours, de l'entrepreneuriat et la méthodologie de Frédéric Mazzella, il y a un chemin qui est une question qui est celle de la culture, de l'entreprise. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et donc ça m'intéresse que c'est des... Bon, on a pu déjà en parler dans certains apéros France Digital, etc. C'est aussi quelque chose qui tient à cœur. Et parfois, je le dis aussi de manière un peu ironique, je vois très souvent dans la Silicon Valley, comme à Paris, beaucoup d'entrepreneurs ou de start-upers qui sont un peu, comment dire, obsédés par la culture. Il faut que je crée ma culture et donc il y a cette culture du cool, etc. de la start-up et qui parfois aussi... fait l'objet de caricatures, parfois dans les médias, au petit journal, etc. On va retrouver les gens qui se moquent de la culture. Et donc, comment est-ce que tu arrives à faire une culture qui soit fédératrice pour tes équipes, qui soit éventuellement émettrice, du coup, de bonnes valeurs vers ton public, mais qui soit différente et pas caricaturale, parce qu'il y a quand même beaucoup de caricatures dans nos métiers.
Ouais, voilà, pas bullshit.
Tu vois, c'est parce qu'au-delà de la première des caricatures, c'est voilà, on va créer un peu un épanouissement personnel avec des baby-food, etc. Et puis, il y a la bouffe gratuite, et quand on va chez Google, il y a des trucs effectivement impressionnants, mais qui deviennent parfois des sujets de critique, parce que c'est aussi une forme d'aliénation par la culture. C'est-à-dire que tu intègres un peu une famille qui devient paternaliste, et qu'il faut penser comme ça, avec la possibilité que tu travailles du coup 24 heures sur 24 pour eux. Et aujourd'hui, la jeune génération, elle est sensible à la culture, mais aussi méfiante de ce que ça peut vouloir dire en termes d'aliénation.
Ouais, alors c'est une histoire d'appropriation par tout le monde, justement, de cette culture-là. C'est-à-dire que si la culture, elle est pondue par une personne et que tout le monde dit « La culture, maintenant, c'est ça !» Enfin, je veux dire, ça ne marche pas du tout. Enfin, là, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, justement, il faut co-construire la culture. Nous, ce qu'on a fait, notre culture, on l'a construit quand on était une cinquantaine. On s'est mis tous ensemble dans une salle. Et la raison pour laquelle on l'a construite, c'est qu'on s'est rendu compte d'une simple chose, c'est que ce n'était pas ou plus uniforme. Beaucoup de choses qui étaient implicites ne l'étaient plus quand on avait un bureau à Milan, un bureau à Varsovie et un bureau à Paris et un bureau à Madrid. Et là, on s'est dit, aïe, zut, attends, il y a des cultures un petit peu différentes par bureau.
Ça se traduisait comment très concrètement ?
Bah, tu te rends compte que dans les méthodes de travail, dans les méthodes d'interaction ou dans le partage d'informations, ça ne se faisait pas de la même manière. Et là, on s'est dit, bon, alors attends, tout ce qu'on constate, c'est qu'on ne fait pas tous exactement de la même manière et que ça en irrite certains. Donc, on s'est réunis tous à 50 et on a dit, bon, alors on va revenir au basique. Qu'est-ce qui nous motive le matin quand on se lève ? Pourquoi on est content de travailler pour Blablacar ? Qu'est-ce qu'on aimerait construire ensemble ? Enfin voilà, tu reprends tous les basiques et puis tu sors des principes de collaboration qui constituent la culture. Et derrière, tout le monde a participé à la co-création de cette culture-là. Et quand tu la sors, c'est même pas un système dans lequel tu dis voilà, la culture, c'est ça. C'est juste, tu dis, on a écrit ce qu'on s'est dit. Et voilà, maintenant, pour les prochains, il faut que chacun... déjà pour nous, et pour les prochains, mais il faut que chacun ait imprégné cette culture-là pour qu'on conserve ce qu'on aime, ce qu'on adore dans notre société et dans la manière de travailler ensemble. Oui, le monde est impliqué. La culture, ce n'est pas juste les fondateurs, c'est vraiment tout le monde.
Et puis, ça dépasse les mots-clés
C'est quand même nécessaire, en fait. Ouais. Ça, c'est quand même nécessaire, effectivement, les mots-clés, mais il ne faut pas que ce soit des mots juste sur les murs. C'est-à-dire que tu peux et tu dois les mettre sur les murs. Nous, on les a même fait en autocollant, enfin, on en a partout. Et donc, dans le livre, j'en parle de manière intense. Mais en même temps,
ça doit se traduire.
Ça se traduit dans les faits, tous les jours, par quelque chose. Je vais prendre par exemple, là on a un principe maintenant chez Blabla qui est Dream, Decide, Deliver. Ça veut dire quoi ce truc-là ? Ça veut dire que tout est permis, on peut rêver, on peut décider, mais on peut aussi livrer. Et donc quand on fait des réunions, des fois...
C'est l'objet du nom des réunions.
Voilà, c'est ça. Ouais. Quand on fait des réunions, on indique dès le début si c'était une réunion Dream, une réunion Decide ou une réunion Deliver. C'est pas pareil, parce que quand toi tu viens dans une réunion pour livrer, pour vraiment avancer, mais qu'il y en a un qui part en mode rêve, tu dis, attends, on l'a déjà fait ça. Désolé, on a déjà rêvé, c'était il y a 2 mois, 3 mois, on a rêvé à ce qu'on voulait faire. Ensuite, on a décidé qu'on allait faire ça. Maintenant, là, on est pour livrer, parce que enfin, sinon, on va jamais y arriver.
On
et donc, tu cadres
jour,
un petit
voilà.
peu. Ouais. Et donc, c'est une culture de travail. On a aussi « share more, learn more ». Plus tu partages, plus tu apprends. Alors ça, ça rejoint Galilée. Hein. Mais tu partages l'expérience et tu permets à tout le monde de grandir avec les connaissances de ses compères de ses collaborateurs. Quoi.
On retrouve le côté analytique qu'Olivier précisait tout à l'heure et ce côté ultra pédagogique, moi, je trouve, en fait, dans toute cette approche. Donc, vous faites compte dans la culture de l'entreprise avec ses acronymes ou avec ses exemples très, très concrets, ça paraît, je t'avouerais, super simple.
Mais c'est tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, hein, comme disait Boileau. Mais en fait, ça demande beaucoup de, effectivement, d'analyse pour arriver à quelque chose de simple. C'est toujours le travail avant.
On revient au simplifier et s'affirmer, on scale la culture de
sur des méthodes pour avancer. En tout cas, sur la culture, il faut vraiment penser à inclure tout le monde dans cette construction-là. La culture, ça ne sort pas du cerveau d'une personne.
Et pour les auditeurs et puis pour les personnes dans le public, juste pour avoir un moyen mémotechnique de se rappeler de ces réflexions, c'est la méthode CœUR, collaborer, officialiser, exprimer, universaliser, donc pour partager pour l'ensemble, et à la fin réviser, parce qu'on parle d'une matière vivante.
Il faut être prêt à faire évoluer en fonction de son contexte. Hein. Y a rien de pire que quelque chose de figé, monolithique. Enfin, y a un moment, ça devient juste vieux et plus du tout à propos par rapport à son contexte. Donc, quand le contexte évolue, quand les faits évoluent, alors ça, après, c'est Héraclite. Hein, quand les faits changent, je change d'avis.
Alors, on avait un entrepreneur qui nous avait dit ça, mais qui ne nous avait pas cité. Moi, je croyais que c'était lui. Héraclite.
Non, quand les faits changent, je change d'avis. Excuse-moi, c'est Keynes. En 1929, au moment du krach boursier.
C'était très fort en citation.
Héraclite, ce qu'il a dit, lui, c'est la seule constante, c'est le changement. Ça se rejoint un petit peu, mais ce n'est pas la même chose.
Il y a juste un point sur la culture que je trouvais intéressant aussi à pousser dans les réflexions qu'on peut avoir en interne dans sa boîte, c'est où sont les lignes rouges. Là, je trouve ça hyper intéressant, au-delà de se dire qui on est, qui on veut être. C'est intéressant de se poser la question à l'inverse, c'est où est-ce qu'on ne veut pas aller, comment on ne veut pas agir, où est-ce qu'on n'ira pas.
Oui, bah, je me souviens d'avoir discuté comme ça avec un fondateur qui me dit oh, « Je me suis rendu compte que ma culture était de traviole quand il y a un des collègues qui a envoyé un mail à un autre dans lequel il y avait marqué « I, you », tu vois, juste en gros, en rouge, en gras. Et là, il s'est dit « Zut, là, on a passé la limite ». Et il s'est dit il faut que je juste réimpose une valeur de base qui s'appelle le respect. Et là tu te dis là t'as vraiment passé la ligne rouge là. Alors, tu te dis ah oui, alors, c'est même plus une histoire de construire la culture là, c'est que là t'es vraiment allé très très loin. Il faut ramener le balancier, ouais, parce que si t'as deux là, c'est juste inacceptable. Enfin, un collègue qui fait ça à un autre, c'est juste dehors quoi.
Je crois qu'il y a aussi un autre sujet avec la culture qui est comme chez les entrepreneurs, c'est quelque chose d'important et on le comprend, hein, parce qu'un des sujets, c'est de recruter des talents et c'est aussi de pouvoir les garder et donc de les emmener dans leurs rêves, etc. Puisque tu aimes bien les citations, hein, c'est comme le truc de Saint-Exupéry qui disait voilà, si tu veux faire construire un bateau, dis à tes équipes, fais-leur rêver de la mer, en fait. Et donc, c'est vrai que tu as ce côté, tu amènes le rêve, etc. Mais je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est que cette culture soit inclusive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des nouveaux, tu disais, hein, le premier jour d'arrivée, l'onboarding est très important. Et parfois, la culture, il y a des cultures qu'on appelle implicites, des cultures qu'on appelle explicites. Et quand la culture est élaborée et que les gens sont soudés, ils peuvent avoir du mal. Et parfois, c'est les communautarismes, hein, sans parler de religion, il y a des notions un peu communautaires. Ça peut être difficile de rentrer là-dedans. Est-ce que c'est des sujets que tu as connus ou rencontrés en tant qu'entrepreneur, investisseur ou autre? De voir qu'à un moment donné, une culture est parfaite, mais en revanche, un peu exclusive.
Il y a une question d'adaptation, c'est sûr, des nouvelles personnes qui arrivent, mais ça, c'est valable pour n'importe quel endroit. Après, de toute manière, plus tu es explicite, mieux ça se passe, parce que chacun peut se positionner. C'est quand c'est implicite que c'est plus compliqué. Quand tu n'as pas compris, personne ne t'a expliqué, personne ne t'a dit comment la culture était à cet endroit-là, et que tu dois toi-même découvrir et faire une sorte de reverse engineering pour comprendre quelle est la culture, parce qu'il y a plein de dangers là-dedans. Non seulement ça te demande beaucoup plus de temps pour t'adapter justement à la culture, mais en plus tu risques de l'interpréter toi à ta manière et pas de la même que celle du voisin. Donc en fait, après, chacun se retrouve avec une culture différente. Donc le côté explicite quand même facilite normalement l'intégration et en plus facilite la communication externe, y compris en amont, quand une personne va rejoindre l'équipe, lui communiquer la culture quand elle a été explicitée en amont pendant le processus de recrutement, c'est plus simple que quand elle n'a pas été explicitée. Il y a des gens qui, des fois, rejoignent des boîtes, on leur a pas exposé la culture, et le premier jour, ils font
des chants.
D'accord, c'est comme ça que ça se passe ici, poum, et ils font le coup de la grenouille qui arrive dans la casserole chaude, et ils ressortent tout de suite, quoi.
On tourne beaucoup, en fin de compte, autour toujours de cette notion de simplification, mais d'une communication claire, d'une parole claire, de valeurs claires identifiées. Et comment tu fais vivre, en fin de compte, à chaque fois cette culture? Ça se traduit comment, concrètement, etc. Et je trouve qu'on retourne à chaque fois, en fait, on retrouve à chaque fois exactement en fait, ça dans diverses typologies des méthodologies que tu proposes, en fait.
Oui, c'est des chemins de raisonnement, en fait, effectivement, où on va pas aller directement à une conclusion si on n'a pas quand même sécurisé. C'est presque une sorte de démonstration, ça rejoint les démonstrations mathématiques. Tu passes pas d'une ligne à la suivante si tu as un saut de la foi à faire entre la ligne 1 et la ligne 2. Sinon, tu es parti de la ligne 1 et tu arrives à la ligne 14, sauf que entre la ligne 7 et la ligne 8, tu n'as pas fait le chemin et il y avait un trou et en fait, du coup, tu es parti de...
Oui, mais
de...
ça demande de la discipline, tu vois.
Ouais, mais c'est la discipline de la démonstration de la preuve. Qui fait que tu as un chemin pavé qui tient, qui est tout le long et qui n'a pas de trou. Et donc, et après, tu arrives, tu dis, bon, bah, on va faire comme ça. Donc.